bonjour à chacun. Nous avons vu dans la première émission qu'il y a dans les civilisations orales des techniques de transmission avec la composition de récitatifs. Et nous avons expliqué que le comptage est la base de toute mémorisation. On compte par exemple avec des perles que l'on enfile dans un collier. Et l'évangile selon saint Jean a été composé sous la forme d'un collier filé, de sorte que l'on peut faire des méditations suivant des fils horizontaux et des fils verticaux transversaux, voulus par l'apôtre. Il y a 8 fils horizontaux, c'est l'ordre habituel, et 6 fils verticaux, de sorte que l'on peut nommer les perles, par exemple 1A jusqu'à 8F. Il y a aussi 2 tresses horizontales que nous avons appelées la tresse du pain de vie et la tresse de la passion, et 2 tresses verticales. Et les tresses horizontales et verticales vont se croiser en formant 4 nœuds. Au stade où nous en sommes, il est très utile de voir les schémas dans mon livre qui s'appelle « Jean, l'évangile enfilé », aux éditions Parole et Silence, avec la préface d'un évêque d'Irak qui connaît bien cette civilisation orale qui était celle des apôtres. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment Jésus relève le temple. Comment Jésus relève le temple. Et nous allons voir que c'est très actuel par rapport à différentes questions que l'on se pose dans l'Église, notamment en Allemagne, mais pas seulement. Alors, tout d'abord, regardons la structure du temple et de sa liturgie, qui met la nature humaine en relation avec Dieu. Ce qui nous intéresse, ce sont les portes, qui délimitent une structure quaternaire. On entre dans le temple par une porte qui fait passer du parvis des gentils au parvis des femmes. Le parvis des femmes n'est pas réservé aux femmes, mais les femmes n'avaient pas le droit de le dépasser. Il y avait une seconde porte pour entrer dans le parvis des hommes ou le parvis des Israélites, lequel est séparé par l'autel des sacrifices du parvis des prêtres qui donnait accès à l'édifice du Héral ou Saint. Dans cet édifice, un rideau marque la séparation entre le Saint et le Saint des Saints, où seul le grand prêtre entre le jour du Yom Kippour, le jour des expiations. Donc, vous voyez, nous avons une structure quaternaire. Il y a l'extérieur, le parvis des gentils, et puis tous ceux qui entrent dans l'Alliance entrent par le parvis des femmes, ensuite il y a le parvis des hommes, ensuite le sanctuaire ou saint, le lieu des prêtres, et ensuite le saint des saints, le lieu du grand prêtre. Eh bien, quand Jésus dit aux Judéens « Abattez ce temple-ci, et en 3 jours, moi, je le relève », et que les Judéens lui disaient « En 46 ans a été édifié ce temple-ci, et toi, en 3 jours, tu le relèves », lui, il disait cela au sujet du temple de son corps. Et lorsqu'il se releva debout de chez les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent aux Écritures et à la parole que Jésus dit. Donc, bien sûr, Jésus parlait de son corps et annonçait sa résurrection. Le temple sera comme une maison déserte, il sera même détruit. À la suite de la résurrection et de la Pentecôte, la présence de Dieu sera donnée à ceux qui suivent Jésus, tout en conservant les fondements cultuels du temple, ce qui tendra malheureusement à s'estomper, surtout en Occident. On doit employer l'adverbe « malheureusement » car ces fondements ont été révélés par Dieu à Moïse et ils correspondent à des fondements anthropologiques. Il ne faut pas les perdre. Le parvis des femmes, donc, qui communique par une porte avec le monde extérieur, plus exactement le parvis des gentils destiné à ceux qui regardent et qui pensent entrer. Eh bien, comprenez, le temple est une source de vie. Il est un lieu de vie. À l'image de la cellule vivante, tout lieu de vie nécessite une intériorité, séparée de l'extériorité par une membrane permettant la vie. Eh bien, le temple est ainsi doté d'une porte, permettant à ce qui doit entrer d'entrer et à ce qui doit sortir de sortir. Ainsi, le parvis des femmes accueille-t-il tous ceux qui entrent dans l'alliance avec le Créateur ? Ce parvis des femmes est le lieu propre des femmes hébraïques qui sont entrées dans cette dynamique de vie, par naissance ou éventuellement par mariage. En quoi est-ce leur lieu propre ? La féminité est centrée sur l'accueil de la vie, donnée par Dieu. Ce qui veut dire deux choses. D'une part, la vie est faite pour être entourée et protégée. Et d'autre part, celle qui la porte a une connexion naturelle avec l'aspect religieux de la vie. Il est d'ailleurs démontré que les femmes universellement, et déjà les jeunes filles, sont naturellement beaucoup plus religieuses que les hommes. Par leur simple présence, elles participent à l'ensemble du culte. Elles sont les éducatrices parce qu'elles portent le mystère. Le parvis des hommes circoncis, les Israélites, est réservé aux seuls hommes et il conduit à l'autel du sacrifice. Il s'agit d'abord d'un sacrifice d'action de grâce et de communion. Il peut aussi s'agir d'un sacrifice d'expiation pour le péché. Bien évidemment, les femmes peuvent aussi offrir leurs prières et leurs sacrifices dans le parvis des femmes. Alors, pourquoi y a-t-il un parvis des hommes réservé aux seuls hommes ? Parce que la masculinité est centrée sur l'aménagement du monde, au service de la vie. Le travail masculin se vit en rapport à un certain ordre des choses à respecter et à promouvoir. Cet ordre des choses suppose que l'être masculin se réfère à Dieu le Créateur. Il a besoin de la loi, c'est-à-dire de connaître l'ordre du monde. C'est pourquoi, dans toutes les religions anciennes, l'être masculin s'approche du Créateur par des sacrifices. Mais quels sacrifices ? Faut-il offrir le sang humain, la ligature d'Isaac ? Et à quel Dieu ? Les Baals sont avides de sang. La révélation aux Hébreux, concrétisée dans la loi et le temple, fait connaître le vrai Dieu créateur, qui donne un cadre moral de vie sociale et qui se fait adorer comme non représenté et impalpable. On ne fait pas d'image de Dieu. Et donc, s'il n'est pas représenté, il est universel. On va y venir. L'acte de culte par excellence, le sacrifice, est épuré de l'idolâtrie et de la magie. Et par cet acte, les hommes entourant l'autel sont désormais mis en relation avec la vraie source de vie. Pour que le sacrifice soit offert, il faut des officiants choisis et mis à part pour cela. Les cultes anciens se sont organisés de différentes manières. Chez les Hébreux, c'est Dieu lui-même qui a réglé la question en instaurant parmi les 12 tribus d'Israël la tribu de Lévi comme prêtre. Et au temple, le lieu propre de ces prêtres est appelé le Saint. Ce lieu correspond à la dimension sacerdotale de la nature humaine. Chaque être humain est en relation avec son Créateur. Il est appelé à prier pour sa famille, pour sa tribu, pour sa nation. Toute cette prière est portée par les descendants de Lévi à l'autel. Et lorsqu'ils franchissent la porte du Saint, à l'intérieur de celui-ci. Il convient de remarquer que ces Lévites, parce qu'ils représentent le monde invisible dans leur action cultuelle, n'agissent pas en tant que masculins. Ils sont placés au-delà de l'aspect charnel. Ils se branchent sur une autre source de vie que la procréation, C'est pourquoi il devait s'abstenir, entre guillemets, de l'usage de la femme la veille ou les jours précédant leur service dans le sanctuaire, selon les fêtes. Leur service n'était pas permanent. Il se faisait en principe à tour de rôle. On comprend ici le lien qui existera entre le célibat consacré et le service permanent de l'autel. Voir le Concile de Carthage en l'an 390. La discipline sacerdotale de l'ancien temple est gardée dans l'Église. Dans l'Église catholique, comme les prêtres sont appelés à célébrer le sacrifice eucharistique tous les jours, ils doivent s'abstenir de la femme la veille de tous les jours, ce qui constitue évidemment une abstinence perpétuelle. Les prêtres mariés de l'Église orthodoxe doivent s'abstenir de la femme la veille de la célébration de la Sainte Liturgie, samedi soir. Enfin, il y a un dernier lieu et une dernière porte. C'est celle du Saint des Saints. C'est le cœur du temple, l'intérieur de l'intérieur. C'est là que je te rencontrerai, explique Dieu à Moïse. C'est de sur le propitiatoire, entre les deux chérubins qui sont sur l'arche du témoignage, que je te donnerai mes ordres pour les Israélites, livre de l'Exode, chapitre 25, verset 12. L'unique grand prêtre y pénètre, et une seule fois par an, pour être en contact avec Dieu et transmettre ensuite sa bénédiction. Les Hébreux ont découvert peu à peu que le Seigneur n'était pas simplement leur Dieu, un Dieu au-dessus d'autres dieux, mais le Dieu unique de toute la création, le Créateur. La prière à ce Dieu porte donc une dimension universelle. Au-delà de toute nation ou langue, c'est le culte grand sacerdotal. D'un point de vue anthropologique, cette dimension grand sacerdotale de la nature humaine s'était rarement exprimée dans le vécu des civilisations anciennes. À Jérusalem, désormais, tous les peuples sont concernés par ce qui s'y passe. En fait, seul Jésus sera le véritable grand prêtre, capable d'intercéder pour toute l'humanité. C'est justement ce que Saint Jean va enseigner. Alors, c'est maintenant que nous revenons à l'évangile selon Saint Jean, dont je vous ai expliqué qu'il est formé de perles qui forment des fils horizontaux, verticaux, ça forme un filet, il y a des tresses et même des nœuds de tresses, quatre nœuds de tresses qui vont correspondre à cette quaternité. Quaternité du temple, quaternité de la structure liturgique, quaternité de la nature humaine. Alors, nous n'avons pas les schémas sous les yeux pour le filet de Jean, mais ça va être facile quand même, c'est assez simple. Le premier nœud, donc, ce sont les perles 2A à 4C, alors, on ne peut pas représenter à la radio, mais on va raconter et vous allez comprendre. Ce nœud commence avec l'épisode de Jésus qui demande l'eau vive à une femme de Samarie. Jésus est d'abord reçu par une femme, le féminin. Le destinataire du don de Dieu, c'est bien sûr tout être humain. Cependant, au plan du rituel liturgique, c'est la femme qui symbolise l'accueil du don. De là, le parvis des femmes dans la quaternité du temple. Ce parvis est ouvert à tout le peuple et potentiellement au monde entier, acceptant l'alliance avec le Très-Haut. En ce sens, il est remarquable dans l'Évangile selon Saint Jean, dans ce premier nœud de tresse, d'entendre les Samaritains reconnaître Jésus comme sauveur du monde. On voit ensuite Jésus guérir le fils d'un officier romain, païen ou prosélyte. On y entend aussi que Jésus est le vrai pain du ciel qui donne la vie au monde. Il est dit aussi que Jésus est la lumière du monde. Toujours dans le même nœud de tresse, eh bien, Comme le parvis des femmes est orienté vers le sanctuaire qui lui donne sa raison d'être, ce premier nœud ouvre déjà sur le mystère, la nourriture que vous ne connaissez pas et qui est la volonté du Père. Le parvis des femmes correspond à la première dimension de la nature humaine. Or, la femme de Samarie est pécheresse. Elle s'approprie le puits de Jacob comme s'il n'avait été donné qu'aux Samaritains. Elle a eu 5 maris, symbolisant les cultes idolâtriques au Baal répandus en Samarie. Elle vit dans l'adultère, symbolisant l'infidélité de ses ancêtres à l'Alliance. L'adoration véritable du Père, le Créateur, apporte la guérison du désordre apporté à cause de tous ses péchés, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient ceux des parents et des générations passées. Plus généralement, la féminité centrée sur l'accueil de la vie donnée par Dieu et donc naturellement empreinte de religiosité peut également se dégrader en pouvoir maternel autocentrique, un pouvoir quasiment divin de vie et de mort. La féminité doit être restaurée par la participation au vrai culte de l'unique source de vie. Jésus invite à adorer le Père en esprit et en vérité. Ainsi, ce premier nœud de tresse nous révèle-t-il à la fois la première dimension de la nature humaine, mais aussi son altération par le péché et sa guérison par la foi en Dieu le Créateur. Voyons le second nœud de tresse. Ce nœud, ce deuxième, commence avec l'épisode de Jésus qui demande à un homme malade s'il veut guérir. Jean chapitre 5. La question est pertinente. Après avoir été couché 38 ans, le malade aura pu s'attacher à certains accommodements liés à sa maladie. Ce dernier répond qu'il ne peut pas car il n'a pas d'homme pour l'aider. Après sa guérison, on lui demande « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton grabat et marche ?» Jésus est cet homme qui prend en compte son cas. Le paralytique guéri va au temple, sans aucun doute au parvis des hommes, pour un sacrifice d'action de grâce. Un parvis qui n'a pas sa raison d'être en lui-même, il faut rechercher la gloire qui vient de Dieu seul. C'est la finale du chapitre 5 qui fait partie aussi de ce second nœud de tresse. La lecture en nœud de tresse nous permet de comprendre la teneur du sacrifice chrétien dans le temple relevé par Jésus. Il s'agit du sacrifice de l'hypocrisie, de la vanité, de la gloire humaine. Selon la parole de Jésus, Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Il y a un jeu de mots, luire c'est nard. Et briller, c'est barre. Et ce jeu de mots dénonce ceux qui cherchent simplement à briller en société, mais qui sont vides. Il s'agit du sacrifice aussi de la volonté propre à la suite de Jésus qui dit « Et ce n'est pas selon le désir de mon âme que je suis venu, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, celui que vous ne connaissez pas. » Jean chapitre 7, verset 28. Et Jésus dit aussi « Qui veut faire sa volonté, comprend si mon enseignement est de Dieu. » Chapitre 7, verset 17. Le sacrifice est un courbana qui sanctifie ce qui est offert. Jésus veut notre vivification. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Il faut passer de ce qui n'est pas authentiquement une vie à ce qui est plénitude de vie. Jésus, le bon berger, donne sa propre vie pour que le troupeau ait la vie qui est pour toujours. Jean chapitre 10. Le parvis des hommes correspond à la seconde dimension de la nature humaine, la masculinité, qui se dégrade facilement en pouvoir sur les autres hommes. conférant ainsi à ceux qui le possèdent une surhumanité apparentée au divin. Ce nœud a montré des bergers rapaces et tueurs. Jean chapitre 10, verset 8. La masculinité doit être restaurée par le culte du vrai Dieu, et le sacrifice prend alors le sens d'une réconciliation et d'une réparation. Ne pêche plus, est-il simplement dit à l'homme. Jean chapitre 5, verset 14. Troisième nœud de tresse. Vous allez voir qu'il va correspondre au sanctuaire. Or, le livre du Lévitique, au chapitre 22, nous dit que parmi les impuretés qui excluent les prêtres du sanctuaire, il y a le contact avec la mort. Or, ce troisième nœud de tresse commence par l'épisode où Jésus appelle Lazare à sortir du tombeau. Et Jésus dit « Qui croit en moi, même s'il est mort, vit ?» Jésus est par excellence le saint et le sanctuaire, où tout à chacun qui est vivant et croyant en moi jamais ne meurt. Jean chapitre 11, verset 26. Ensuite, dans la perle suivante, on voit Marie, la sœur de Lazare, qui oint d'une onction Jésus, qui, comme le révèle Jésus, est pour le jour de son ensevelissement. Mais Jésus est le mort saint. Il est le saint jusque dans la mort et l'union de sa sainte volonté à la divine volonté le ressuscitera. En effet, dans ce même nœud de tresse, on entend « Je ne vous laisse pas orphelin, je viens en effet auprès de vous dans encore un peu de temps. » Jésus annonce sa résurrection. Jésus fait aussi une promesse. Ce paraclet-là, l'Esprit de sainteté, celui que mon Père envoie en mon nom, lui vous enseignera toutes choses. Et lui vous remémorera tout ce que je vous ai dit. Voyez, l'Esprit de sainteté est envoyé par le Père. Et Jésus, juste avant, a dit « Je ne vous laisse pas orphelin ». Et dans le récitatif oral, le mot « orphelin » est mis en valeur par une reprise de souffle. Il s'agit de vivre la relation au Père. L'Esprit Saint est l'Esprit du Père et du Fils. C'est l'Esprit filial. Eh bien, le sanctuaire des prêtres est le lieu où les prêtres, les lévites, sont les dépositaires du patrimoine de la révélation. Ils sont les hommes de la parole transmise, les récitatifs et actifs. Ils doivent se remémorer tout ce que Dieu dit. Et l'Esprit Saint enseigne et il a un rôle dans la mémorisation. Ce qui correspond justement aux prêtres dans le sanctuaire. Ils doivent mémoriser la révélation et la transmettre. Malheureusement, l'exercice du sacerdoce peut se dégrader lui aussi en pouvoir de manipulation religieuse, souvent magique et même occulte. Dans ce troisième nœud de tresse, on voit les grands prêtres, déjà le pluriel indique l'anomalie, car il ne devrait y avoir qu'un unique grand prêtre, c'est l'appât du gain qui a suscité le partage de la fonction. Et quelle est la pensée qui habite ces gens qui se prétendent grands prêtres? La mort. Ils calculaient de le tuer. Jean 11, verset 53, de tuer Jésus. Que signifie leur raisonnement? En outre, qu'ont-ils à faire dans un sanctuaire s'ils sont remplis d'idées de mort? Jésus donne à l'humanité les moyens de préserver sa dimension sacerdotale de la corruption, que ce soit par l'appât du gain ou les pratiques occultes. Il promet l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité fermeté. Jean 14, verset 17. Il montre l'exemple de celui qui n'a rien dit en secret. Jean 18, verset 20. Et surtout, il montre l'exemple fulgurant d'une sainteté parfaite, une absence de mort. Jésus rappelle avec insistance la limite des possibilités humaines. Vous n'êtes pas capable, Jean 13, verset 33, verset 36. La reconnaissance de notre incapacité est le préalable à la révélation d'une nouvelle possibilité par instauration divine, ce qui nous amène dans le quatrième nœud, le Saint des Saints. Dans l'Évangile selon saint Jean, ce quatrième nœud commence avec l'acclamation de la foule qui bénit Jésus. Et la perle suivante nous fait entendre la voix céleste du Père qui confirme la foule. Symboliquement, nous voici dans le Saint des Saints, le lieu où le Père se fait entendre, la voix céleste. D'ailleurs, l'appellation que Jésus s'est choisie, Fils de l'homme, vient du prophète Daniel, qui évoque aussi un Messie consacré, donc Saint des Saints. Daniel 9, verset 24. Dans la perle suivante, l'évangéliste cite un oracle du livre d'Isaïe concernant l'aveuglement du peuple. En fait, il cite Isaïe chapitre 6, verset 10. Or, Isaïe reçut cet oracle dans le Saint des Saints. Après avoir contemplé les séraphins acclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur !» Et en s'inquiétant, mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Sabaoth. Dans le Saint des Saints, aussi appelé Débir, le lieu de la parole, le grand prêtre entre en présence du Seigneur pour recevoir sa parole et la transmettre. Eh bien, c'est ce qu'accomplit Jésus. Ce que je dis, tel que le Père me l'a dit, je le dis. Jean chapitre 12, verset 50. Vous savez, quand j'ai dessiné ces tresses et ces nœuds de tresses et que j'ai fait ces observations, j'ai jubilé. Je me suis dit vraiment, cette composition est merveilleuse. Elle est faite pour être méditée oralement. Elle est d'une profondeur insoupçonnable. Le sommet de la révélation advient au moment du sacrifice de Jésus. Mais un des soldats le frappa en son flanc par une lance et d'un coup il sortit du sang et des os. Jean 19, 34. C'est le signe d'une rupture du myocarde causée par l'effort, l'angoisse et l'amour. Davantage que la cruelle crucifixion, c'est l'amour brûlant qui est la cause de la mort de Jésus. Un foyer incandescent d'amour fait éclater le cœur du Christ et le fait passer vers le Père. En quelque sorte, le Saint des Saints est ouvert et celui qui a vu a témoigné. Jésus est désormais le grand prêtre qui intercède pour le monde. Amen, amen, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Encore une remarque sur ce quatrième nœud de tresse. Le livre du Lévitique dit aussi que le grand prêtre ne sortira pas du lieu saint de manière à ne pas profaner le sanctuaire de son Dieu. Lévitique chapitre 21 versets 10 et 12. Comment faire pour qu'un grand prêtre ne sorte pas du lieu saint? Seul Jésus le peut spirituellement. J'ai conservé les commandements de mon Père et je demeure, moi, dans l'ardeur de son amour. Jean 15, verset 10. On est encore dans le quatrième nœud de tresse. Jésus est en permanence dans le Saint des Saints, puisqu'il est en Dieu même. Il réalise ce que l'architecture du temple ne pouvait que préfigurer. Aussi, Jésus a-t-il annoncé qu'en 3 jours, il relèverait le temple. Quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite, Jean 2, verset 22. Par la résurrection de Jésus, les disciples non seulement crurent à la parole sur le temple relevé, mais ils crurent aussi à l'Écriture, à ce passage du livre du Lévitique qui attendait sa réalisation. Comment faire pour qu'un grand prêtre ne sorte pas du lieu saint? Ce quatrième nœud nous fait voir aussi le sang du Christ, sang de sa flagellation, de son couronnement d'épines, de son crucifiement. Jésus, grand prêtre, offre l'agneau qu'il est lui-même. Jésus est l'agneau très pur, immolé pour les Seigneurs Dieu. Il est aussi l'agneau, le bouc émissaire, chargé du péché du monde, mais purifié par le sang de l'agneau très pur qu'il est aussi. Dans le Saint des Saints, le grand prêtre entre une fois par an pour le sacrifice des expiations, au Yom Kippour. Il est écrit dans le livre du Lévitique au chapitre 16, Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort à Yahvé, au Seigneur, et il en fera un sacrifice pour le péché. Quant au bouc sur lequel est tombé le sort à Azazel, on le placera vivant devant le Seigneur pour faire sur lui le rite d'expiation pour l'envoyer à Azazel dans le désert. Jésus n'est pas présenté comme un descendant d'Aaron, bien que Jean-Baptiste soit son cousin. Son grand sacerdoce n'est pas celui d'Aaron, c'est le grand sacerdoce qui fait partie de la nature humaine elle-même, et que celui d'Aaron ne fait que représenter. En tant que le temple représente la nature humaine, chacun est appelé à participer au grand sacerdoce du Christ. Mais, en tant que l'Église actualise la liturgie du temple, ce sont les apôtres et leurs successeurs qui sont investis du grand sacerdoce du Christ. Sinon, la liturgie n'est plus représentable. Le grand prêtre portait sur son front une plaque en or, netzer en hébreu, pétalon en grec, sur laquelle étaient inscrits les mots « consacrés au Seigneur ». Bien sûr, Jésus n'a pas porté une telle inscription, mais ses apôtres, oui. Pour célébrer, il s'habillait comme les grands prêtres, ce que l'on sait non seulement par l'allusion vague d'Eusèbe de Césarée, mais surtout par l'unique représentation que l'on ait de l'apôtre Thomas, une représentation datée de l'an 69 ou 70, et qui est gravée dans le granit à gauche d'un ensemble de bas-reliefs à Liangyongdang. Les apôtres étaient conscients du ministère que le Christ leur avait confié. Alors, comprenez bien, hein, le grand sacerdoce est une dimension de la nature humaine. Chacun de nous, hommes et femmes, nous pouvons intercéder pour le monde entier. Chacun de nous, nous avons en nous-mêmes eh bien, un sanctuaire intérieur, un saint des saints où nous entendons la sagesse divine et où Dieu peut instaurer une nouvelle vie, de sorte que nous sommes vivants, parce que s'il n'y avait pas de nouveauté, eh bien, on serait des machines ou des ordinateurs ou des animaux. Mais au plan de la liturgie représente le mystère. Le grand sacerdoce doit être représenté par des hommes, comme dans la liturgie juive, parce qu'il représente justement le don de Dieu. Dieu qui donne la révélation et qui donne la bénédiction. Alors que la femme, dans la liturgie, va représenter l'humanité en tant qu'elle reçoit la vie de Dieu. Et si on ne joue plus ce jeu liturgique, on ne va plus comprendre la nature humaine. On va arriver à des confusions terribles. On va tomber dans un humanisme qui va finir par être athée. On va confondre l'inspiration satanique et l'inspiration divine. On va tout confondre. Donc, il faut bien garder cette quaternité du temple. Alors, ce dernier nœud de tresse est donc une fulgurante description de la fonction grand sacerdotale. Cette fonction avait été préfigurée à la face du monde par la liturgie hébraïque à Jérusalem, mais qui avait été terriblement salie par des grands prêtres, dont beaucoup n'étaient même pas légitimes, et qui allèrent jusqu'à crier « Nous n'avons de roi que César ». Jean chapitre 19, verset 15. Ce grand sacerdoce s'était-il dégradé en soif de pouvoir universel ? En tout cas, après Jésus qui est le véritable grand prêtre seul capable d'intercéder pour toute l'humanité, les faux messies et faux prophètes qu'il a prédits se lèveront en nombre, se posant en sauveur de l'humanité, donc en revendiquant un statut divin. L'idée même de sauver le monde est devenue commune jusqu'au dessin animé pour enfants. Couper des saints des saints et retourner contre la source divine, le projet de salut de l'humanité constitue évidemment les pires dégradations destructrices de la nature humaine. Faites attention, chers auditeurs, à ceux qui prétendent trop sauver le monde. Ils se prennent un peu trop pour Dieu. Et ça va finir mal. Surtout s'ils sollicitent ou prétendent ou mettent en épingle des dangers extrêmes de façon à pouvoir se présenter comme les sauveurs. Faites attention, faites attention. Ce dernier nœud de tresse se devait donc d'annoncer la guérison du pire des péchés, celui qui affecte la dimension grand sacerdotale de la nature humaine. Cette guérison se fera par le Paraclet, l'Esprit Saint, qui blâmera le monde quant au péché et quant à la justification et quant au jugement. Jean chapitre 16, verset 8. Ce Paraclet qui sauve de la malédiction, c'est l'Esprit de Jésus, transmis sur la croix quand il livra l'Esprit. Jean chapitre 19, verset 30. Donc, ce quatrième nœud de tresse, comme le premier, le deuxième et le troisième, contient à la fois une description d'une des dimensions du temple, d'une des dimensions de la nature humaine, mais aussi une description du péché qui va salir ou détruire cette dimension de la nature humaine ou cette partie du temple, et aussi la guérison du péché relatif à cette dimension. Alors, on va conclure très très rapidement sur le rôle de l'Esprit Saint. Il irrigue les quatre dimensions de la nature humaine. Dans le premier nœud, il est dit « C'est l'Esprit en effet qu'est Dieu, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'il convient qu'il adore. » Puis, Jésus promet que l'Esprit Saint jaillira des entrailles de celui qui croit, comme une eau jaillissant en vie éternelle. Donc l'Esprit Saint est présent dans le parvis des femmes. Il est aussi présent dans le parvis des hommes. Il est dit, dans le deuxième nœud de tresse, « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Dans le troisième nœud, nous entendons une invitation à recevoir l'Esprit Saint que le Père enverra et qui nous enseignera et nous remémorera tout. Autrement dit, pour celui qui a suivi Jésus jusque-là, l'Esprit Saint devient un enseignant. Quatrième nœud, qui correspond au Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu mystérieux dont le grand prêtre ne devrait pas sortir, c'est aussi le lieu du discernement ultime, donc du jugement. L'Esprit Saint blâmera le monde. Or, il est dit qu'en mourant, Jésus livra l'Esprit, de sorte que tous les disciples peuvent demeurer en lui. La nature humaine n'est plénière que lorsque l'Esprit Saint nous unit au Christ, dans le Saint des Saints de l'âme. Ceci étant dit, le filet de Jean ne se réduit pas à la quaternité. Rappelez-vous le filet de Jean, 8 fils horizontaux, 6 fils verticaux. Donc, la tresse des fils horizontaux 2, 3, 4 et 5, 6, 7 se croise avec la tresse ABC et DEF, mais il reste le premier fil horizontal et le huitième fil horizontal. Et ces fils sont très importants aussi pour notre propos. L'Esprit Saint irrigue l'homme dans toutes ses dimensions, mais l'Esprit Saint n'est pas l'esprit de l'homme. Il est divin. Il est plus grand que la quaternité de la nature humaine. L'Esprit Saint se décline selon des modes divers qui correspondent à la nature humaine, mais il est transcendant. Sur le schéma, c'est très visible. Il dépasse, il n'est pas uniquement contenu. Il est l'Esprit qui descend d'en haut, première perle, et il faut le recevoir, perle 8C. On va s'arrêter là, mais alors je vous invite vraiment à avoir le livre pour avoir les schémas. Donc, je le rappelle, Françoise Brennard, B-R-E-Y-N-A-E-R-T, L'Évangile en filet, édition Parole et silence. Vous pouvez aussi voir des choses sur mon site internet qui s'appelle foi-vivifiante.fr. Foi-vivifiante.fr. Merci Jérôme.
À bientôt.